Bienvenue au Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Je t'ai invité parce que tu as quand même été audacieux environ un mois. Tu as posté un article sur dans le fond, Medium, mais tu l'as partagé sur LinkedIn, qui revient sur l'espèce de discours « Non, le cloud n'est pas un ordinateur de quelqu'un d'autre », qui est quand même un élément rhétorique très important au sens infonologique en général et au sens sécurité aussi également. Il y a des aspects très importants face à ça. Mais je vais te laisser commencer à introduire un peu ton idée, puis on va aller avec ça.
Ouais, effectivement, j'ai eu pas mal de réactions, c'était surprenant. Mais en fait, je pense que cet article, c'était tout d'abord le reflet de l'évolution de ma propre pensée. Je m'explique, il y a quelques années, ce fameux mime, l'image du cloud malheureux, du nuage malheureux avec la mention que le cloud n'existe pas, il s'agit juste de l'ordinateur d'un autre. Elle me faisait rire aussi. Il y a quelques années, je la trouvais drôle parce que fondamentalement, effectivement, en bout de course, quelque part, ça reste des ordinateurs qui sont quelque part dans un data center. Donc, j'avoue qu'il y a 5-6 ans, je trouvais ça plutôt drôle. Et puis, depuis 5-6 ans, j'ai commencé à travailler de façon beaucoup plus importante et puis désormais uniquement dans l'info nuagique, dans le cloud. Puis progressivement, je me suis rendu compte à quel point c'est pas drôle en fait ce mime, à quel point c'est dangereux cette représentation, ce petit humour, dans le sens où ça vient complètement mélanger la notion de cloud provider moderne tel qu'on les connaît aujourd'hui versus un hébergeur qui est un super service, qui est génial, qui est un service qu'on beaucoup d'entreprises on en a besoin et on en aura encore besoin demain, mais qui n'est pas la même chose, qui n'offre pas le même type de prestation. Et puis c'est ça que j'ai voulu un petit peu mettre en avant parce que partager cette évolution, ce reality check que j'ai eu dans ces dernières années. Et puis, on s'est aperçu, je le savais déjà, mais l'article l'a confirmé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu ce reality check encore. Alors, je veux pas être présomptueux et dire que tout le monde va finir par l'avoir. On peut bien sûr être d'avis divergent, mais c'est clair, moi, je reste convaincu que non, le cloud, ce n'est pas juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus que ça.
Puis effectivement, puis je vais renchérir là-dessus parce que c'est la façon de voir, dans le fond, c'est les vieux services que tu parles justement, que tu qualifies comme d'hébergement. Puis si on prend vraiment les trois choses qu'on a, le IaaS, le PaaS, le SaaS qu'on est habitué, c'est inférieur au IaaS qu'on est, quand on va en hébergement, parce que c'est pas du compute, c'est pas de la force de calcul qu'on prend, c'est des espaces rack. Fait qu'on est dans un cran plus bas encore que ce que les fournisseurs infonologiques et ce que Amazon a commencé à vendre il y a déjà très longtemps. Là.
Effectivement, puisque souvent ce que les gens connaissent de plus en plus, je pense, les notions, comme tu dis, de IaaS, PaaS, SaaS. Donc les gens représentent ça dans leur tête. IaaS, ce sont des serveurs. PaaS, c'est des plateformes comme Kubernetes. SaaS, c'est des services à plus haute valeur ajoutée. On peut parler de conteneurs sans serveur, de serverless, des choses comme ça. Mais souvent, justement, quand on parle de IaaS, par exemple, on pense que ce sont des serveurs. Donc, c'est là où ça nous ramène, quelque part, ça nous tire en arrière, ça nous ramène à cette notion de location de serveur chez un hébergeur. Le problème, ce que les gens oublient, en fait, c'est que dans le IaaS, c'est le dernier S. C'est Infrastructure as a Service. Et ce S, c'est lui qui fait toute la différence. Et c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on n'est pas en train de consommer de l'infrastructure, on consomme un service d'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où je consomme un service, en fait, je vais être capable de le consommer à la demande. Donc, je vais être capable de le démarrer quand je veux, de l'arrêter quand je veux et de n'être facturé que pour cette période de consommation du service. Ce que je ne vais pas être capable dans un modèle plus traditionnel de location d'infrastructure, parce que, oui, alors le terme service, on va le retrouver évidemment, il va être mis en avant, mais la réalité, c'est que vous allez acheter de l'infrastructure ou louer de l'infrastructure avec des périodes minimales. Donc souvent, on parle d'une période de 30 jours, d'une période d'un mois au minimum, puis voire plus d'un an ou plus. On n'est pas du tout sur la même notion de flexibilité. Il y a aussi l'aspect élasticité. Un service vu par un cloud provider, c'est un service qui est capable d'évoluer de façon très simple et très rapide. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui je m'engage sur pour louer une certaine capacité de calcul correspondant peut-être à deux serveurs que demain je vais pas en avoir besoin de cinq autres supplémentaires. Puis là, il n'est pas question d'appeler quelqu'un, d'attendre une cote, de signer une cote, de renvoyer. Non, c'est un appel, c'est un call API, c'est un script Python qui doit me déclencher mes trois, quatre, cinq serveurs supplémentaires parce que ce sont en réalité des services d'infrastructure. Donc ça, c'est une notion de service, les gens l'oublient et ramènent souvent, malheureusement, simplement à l'aspect compute qui est derrière, qui est fourni par ce service.
Ouais, c'est une différence assez fondamentale. Puis on parle de compute, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes que quand on a un ordinateur chez quelqu'un d'autre, il y a tout l'espace de stockage qui est lié directement avec cette machine-là, toute l'infrastructure réseau qui est liée avec cet équipement-là, qui est virtualisé ou disparaît quand on est dans un modèle as a service parce que on ne gère plus les équipements tels qu'on, on ne gère plus la switch de SAN qui nous donne accès à la donnée. On consomme de la donnée, on consomme du compute, même s'il est encore il est défini dans un périmètre de serveur. La réalité, c'est que on peut ne pas vraiment être sur un serveur. Là. Ça devient une vue de l'esprit qui malheureusement nous pénalise.
Bah ouais, c'est un bon point, c'est qu'effectivement il y a le compute, il y a le transport as a service aussi, on pourrait appeler ça comme ça si j'ose dire, ça rentre dans l'infrastructure as a service. Effectivement, on crée nos routeurs, on crée nos règles de firewall, on crée tout ce qui est stockage, les disques durs qui sont effectivement très facilement détachables des instances et puis des VM et puis qui peuvent avoir leur propre cycle de vie indépendamment de la machine, enfin du compute en réalité. Il y a tout un ensemble de composants qu'on ne peut pas, qui n'existent pas dans chez un fournisseur plus traditionnel qui va fonctionner avec des racks physiques, avec des routeurs physiques, et puis qui va vous mettre en avant le fait qu'il est fournisseur agréé Cisco ou je sais pas quelle marque, qui sont des très bonnes marques, mais je veux dire, vous voyez, c'est pas le même discours là. On n'est plus dans le même type de service.
Ben, ce sont déjà plus la même chose, puis c'est aussi valide pour les équipements de sécurité qui sont inclus dans ces éléments-là. On gère du code, on revient à tout devient logiciel. Quand on dit virtualiser, mais tout devient juste logiciel. On ne s'occupe plus, même le AS, on ne s'occupe plus du matériel qui est en dessous. Donc celui-ci est complètement abstrait. Que quand on est dans un contexte d'hébergement, il n'est pas abstrait. Il est encore très présent, puis on est au moins network as a software, là. Fait qu'on est moins dans un environnement qui est pur logiciel, on est encore dans la vie, dans les contraintes. Et donc, les contraintes de sécurité sont associées à avoir des équipements physiques aussi.
Oui, ça nous ramène aussi donc à la notion d'élasticité et puis la notion de consommation sur demande. C'est des scénarios, des use cases très concrets. Là. Je veux dire, on le vit là, dans la vie de tous les jours des TI. On a des entreprises qui ont des pics de consommation en fonction de l'année, en fonction des attaques, en fonction des périodes, des cycles de vente de ces produits. Et puis, pour pallier à ces pics de consommation, bah, chez un hébergeur traditionnel ou on-premise ou sur site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le maximum du pic. Et puis, on va mettre en place l'infrastructure nécessaire pour satisfaire ce maximum de pics de consommation. Donc, imaginons qu'on part sur un pic maximum. On a observé que, par exemple, en période de Noël, pendant les soldes, on a 1 million de visites journalières sur notre site web. Ben, on va mettre une infrastructure qui est capable de desservir 1 million de visiteurs. Sauf que cette infrastructure, la réalité, c'est que 99% du temps, elle va desservir que 200 000 visites, par exemple, par quotidienne sur notre site web. Mais on la paye pour autant, on la paye pareil. Là. Ça va vous coûter le même prix. Hein. Et puis, c'est pas vrai que chez un hébergeur traditionnel, vous allez être capable de scaler up, scaler down aussi facilement votre infrastructure. Parce que justement, ce n'est pas un service, c'est de l'infrastructure que vous avez achetée ou louée. Donc là, avec un service de consommation sur demande, vous allez être capable d'avoir un service d'infrastructure qui est toujours dimensionné en fonction de la capacité réellement nécessaire. Donc, si vous avez besoin d'être capable de desservir 200 000 visites par jour, vous paierez pour un service d'infrastructure capable de desservir 200 000 visites. Et puis, dès l'instant où les visites vont augmenter, ben, ça va automatiquement, je suis désolé pour l'anglicisme, scaler up votre infrastructure. Et puis, automatiquement, ça va rajouter de la capacité de calcul. Ça, c'est, ben, je veux dire, c'est un raisonnement qui est assez simple, qui est clair, qui a un impact direct sur les finances, parce qu'on s'entend qu'on comprend bien que ce n'est pas le même coût une infrastructure qui dessert 1 million de personnes versus 200 000. Voilà, c'est un use case, je pense que ça fait du sens. C'est un peu, c'est un des exemples que j'aime bien communiquer là, pour expliquer mon point de vue, en fait.
Oui, absolument. Puis de toute façon, pour l'histoire, c'est le modèle que AWS Amazon a développé parce qu'eux-mêmes avaient ce problème-là. Dans le temps où Amazon n'était qu'un magasin en ligne de livres, il y a déjà très longtemps, c'était ça le problème. Il y avait des infrastructures pour justement le temps des fêtes ou les périodes qui étaient comme ça, mais justement, ces équipements dormaient le restant du temps. Fait que là, il y a eu des gens qui ont eu une idée de justement dire, oh, ben, on a de la capacité excédentaire pour le restant, ben, on va la louer. Et donc, on va rentabiliser l'espace qu'on a justement pour qu'on fasse plus ça, parce que c'est ça, l'élastique. Puis là, c'est eux qui ont développé beaucoup de principes. C'est pour ça que tous eux sont les pionniers du ce qu'on pourrait appeler l'infonuagique moderne, parce que l'ont fait par but d'économie, puis ils ont commencé, puis ils ont énormément de longueur d'avance sur cette technologie-là, parce qu'ils ont le temps et l'expérience. Donc, tu mentionnais en honte le S3, les buckets S3 sont quand même, c'est vieux, là.
Ah ouais, c'est 2006 là, donc on s'entend qu'on est en 2022. C'est effectivement l'avantage de ces années d'expérience. Hein. La réalité, c'est que on parle beaucoup de la concurrence déloyale des GAFA versus des acteurs plus petits. Bah, c'est évident, hein, on ne va pas se cacher la vérité. Oui, effectivement, quand tu as des millions de dollars derrière toi, voire des milliards, ça aide beaucoup là, on s'entend. Mais je pense qu'un des gros avantages, surtout d'AWS sur sa concurrence, c'est le nombre d'années d'expérience. C'est que des murs, ils en ont frappé un certain nombre. Ça fait depuis 2006. Donc là, je suis très bon en maths. Donc ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans qu'ils se frappent des murs. Ça fait 16 ans qu'ils apprennent et qu'ils développent des services. Donc cette expérience, ben, forcément, elle est mise en pratique et elle leur sert à sans arrêt améliorer leur service. Et puis, tous les cloud providers Azure continuent à s'améliorer aussi parce qu'ils emmagasinent de plus en plus, ils emmagasinent de plus en plus d'expérience. C'est ça aussi, hein, la différence, je pense.
C'est entre autres ça. Puis, de toute façon, puis là, tu pars Azure, mais tu sais, la force de Microsoft, c'est pas autant Azure que O365 là, parce que c'est un des seuls grand provider qui est vraiment en service pur, vraiment en SaaS, qui est la majorité de son offre, et le IaaS et le PaaS sont plus secondaires sur l'ensemble le footprint grand public là, qu'on connaît de ces compagnies-là, parce qu'Amazon, on ne peut ou même littéralement pas de service SaaS de ce côté-là. GCP sont un peu entre les deux. Et tu parlais de S3, puis au niveau sécurité, ils ont eu beaucoup de blessures de guerre Amazon avec S3. Au niveau sécurité, puis c'est pas leur faute à eux autres, parce qu'ils ne savaient pas à quel point les gens étaient inconscients dans l'utilisation de ces outils-là. Et le nombre de buckets S3 publics qui ont créé beaucoup d'émotions. Ce qui a amené à un redesign des interfaces. On ne parle même pas de la technologie elle-même, on parle d'un redesign des interfaces pour amener les gens à éviter de se tirer dans le pied.
Ah oui, effectivement, maintenant, ça devient de plus en plus complexe d'exposer publiquement. En fait, ça devient complexe d'exposer publiquement un bucket. Si vous passez par les policies, c'est encore faisable à travers la console, mais si vous voulez modifier ce qu'on appelle les ACL sur un bucket S3 aujourd'hui, vous n'avez même plus l'option dans l'interface graphique, ils l'ont barré. Donc en fait, vous êtes obligé de passer par la ligne de commande, faut vraiment le vouloir, hein, tu sais, et puis vous avez un gros message qui vous dit en rouge, attention, ce bucket il est public. Bon, on va continuer à en avoir, hein, des buckets publics exposés par erreur, malgré cela, bon, c'est la vie, c'est l'être humain qui veut ça. Mais effectivement, ils apprennent, ils évoluent au fur et à mesure. Et c'est important de se rappeler cette historique. Parce qu'aujourd'hui, quand on découvre la console AWS, c'est plus de 160 services. On est comme un peu inondé là. Azure, c'est plus de 120 services de mémoire. Donc, c'est des environnements qui sont vraiment très riches. Puis là, c'est là où on a tout de suite la réflexion. Waouh, les Américains, là, c'est too much. C'est trop, là, on peut pas lutter contre ça. Mais la réalité, là, c'est que AWS, ils ont commencé avec un service. Ils ont commencé avec un service, c'était le bucket S3, rapidement avec SQS aussi, le service de PubSub, de gestion d'événements. Donc, ils n'ont pas commencé avec 160 services. C'est vraiment au fur et à mesure des années, petit à petit, ils ont rajouté brique après brique. Et je pense que il faut s'inspirer de cette évolution, de ce type de progression dans l'offre de services. Pour la concurrence, c'est qu'il y a de la place à la concurrence. C'est pas parce qu'on a des gros acteurs aujourd'hui sur le marché qu'il n'y a pas de place à la concurrence. Il faut simplement identifier des services avec des valeurs ajoutées, construire là-dessus progressivement, rajouter progressivement des options supplémentaires, mais pas vouloir partir avec l'idée de concurrencer directement un service comme AWS. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas.
Ah, ça, c'est le problème de limitation directe. De toute façon, c'est de la folie à ce stade-ci parce que ces joueurs-là sont rendus tellement imposants. Il y a peut-être juste la Chine qui a été capable de le faire avec Alibaba puis d'arriver avec des choses comme ça. Mais encore là, je ne suis pas convaincu qu'Alibaba a un niveau de maturité qu'on connaît des cloudeurs plus américains dans lesquels on est habitué. Ils sont en progression, mais.
En fait, quand vous regardez le nombre de services offerts, c'est vraiment très clair. Vous avez un impact, une relation directe entre le nombre de services offerts versus l'ancienneté du cloud provider. Et donc, AWS est celui qui a le plus de services offerts, suivi par Azure, suivi par GCP, et suivi par Alibaba. C'est très clair, parce que effectivement, c'est au fur et à mesure qu'on construit, qu'on développe son portfolio. Mais effectivement, vouloir concurrencer comme ça, ça fait pas vraiment de sens. Il faut chercher un service et puis commencer à construire dessus. Et puis, c'est d'ailleurs ce que font certains acteurs du monde de l'hébergement qui se transforment en cloud provider. Puis là, je vais m'attirer les foudres. OVH, par exemple, est un acteur du monde de l'hébergement. Je veux dire, c'est très clair. OVH, en positionnement, historiquement, c'est un spécialiste de l'hébergement qui a été, à l'origine, était un hébergeur low cost qui a offert des modèles innovants d'hébergement low cost. Ils ont fait des choses incroyables en termes d'hébergement low cost, OVH. Et aujourd'hui, très clairement, on voit avec leur offre de conteneurs, de services hébergés pour les conteneurs, on voit que ça y est, là, ils commencent à ajouter des services, à tout doucement se détacher du côté très serveur-machine et à avoir un discours de plus en plus orienté service. Donc, on assiste là à une mutation un petit peu de cet acteur-là qui commence à vraiment à arriver dans le monde des cloud providers, mais avec un catalogue de services qui est effectivement très réduit parce que c'est encore jeune, c'est encore récent. Mais ils vont progresser, ils vont continuer à développer, ça c'est sûr.
Oui, c'est ça, c'est intéressant de voir justement de prendre ce chemin-là puis d'aller là. Un autre volet, puis ça, tu n'en parles pas vraiment beaucoup dans ce que tu as publié, la qualité de la sécurité associée avec un cloudeur versus celle d'un simple hébergement, parce qu'il y a une différence qui est quand même monumentale entre les deux univers, puis ça aussi, ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on retrouve chez un cloudeur.
Voilà. Là, on a, il y a plusieurs, c'est vrai sur plusieurs points, en fait. Il y a plusieurs dimensions. Déjà, on parlait de services. En termes de services de sécurité, déjà, premièrement, est-ce que votre partenaire vous offre des services de sécurité? Je vous parle pas d'un serveur, d'une appliance, prenez n'importe quel brand de sécurité, hein, une appliance Checkpoint, une appliance Palo, whatever. Je vous parle d'un service de sécurité. Ça, si la réponse est non, vous avez déjà un petit indice que c'est pas vraiment un cloud provider. Tous les cloud providers proposent des services de sécurité. Alors, plus ou moins, dans une quantité plus ou moins importante, effectivement, avec une portée plus ou moins large. très clairement, je ne pense pas que vous pouvez uniquement vous baser sur les services natifs, les services offerts de sécurité des cloud providers, mais vous devez clairement les utiliser quand ils sont disponibles et qu'ils répondent à vos cas d'usage, parce que ce sont des services qui sont élastiques. Donc là, je prends par exemple l'exemple l'exemple du pare-feu ou de l'IDS, en fait l'exemple de l'appliance sécurité réseau. Lorsque vous avez un besoin qui peut être satisfait par un service offert par votre cloud provider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez consommer un service qui est élastique, qui accompagne l'élasticité de votre charge de travail. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que vous n'êtes plus obligé d'être, vous n'êtes plus en train de calculer okay, quelle taille d'instance il faut que je mette à l'entrée de mon workload pour inspecter le trafic. Parce qu'on a tous connu ça sur site, tous, je veux dire, des problèmes de performance dans le pare-feu qui n'étaient pas assez bien dimensionnés, quelqu'un avait malheureusement coché la petite option packet inspection et puis là tout est descendu et tout a craché. Je veux dire, on a tous connu ça. Mais là, vous n'avez plus ce problème si vous êtes dans un service natif, parce que c'est un service, c'est pas une machine que vous achetez. Donc s'il y a besoin, ça va. En fait, la rapidité, la performance va être en fonction de la consommation que vous faites du compute derrière, des bases de données, etc. Donc ça, c'est vraiment un énorme intérêt. L'élasticité, c'est pas juste pour l'infra, c'est pour la sécurité aussi. Sinon, la sécurité se transforme en bottleneck. Et puis là, on a comme complètement, on est passé à côté de la promesse de l'info numérique. Donc première dimension, les services de sécurité disponibles. Aujourd'hui, dans AWS, vous en avez peut-être plus dans Azure. D'ailleurs, je pense Azure a été très fort là sur les services de sécurité. Ils ont beaucoup investi, beaucoup aussi sur la stack M365, clairement. AWS investit en ce moment depuis un an ou deux. On voit, il y a deux ans, ils ont sorti Detective. Ils développent en ce moment énormément de nouvelles fonctionnalités autour de Security Hub. Ils ont rajouté un aspect containerisation dans GuardDuty, leur service de l'équivalent d'un IDS, en fait, l'équivalent d'un IDS pour le cloud, Elastic. Donc, on voit que, ça y est, là, ils commencent à vraiment mettre les bouchées doubles sur la sécurité. Mais non, je ne pense pas que vous aurez tous vos besoins satisfaits avec les services natifs. Ensuite, il y a une autre dimension. C'est est-ce que votre charge de travail, elle est dans un environnement sécuritaire by design, par défaut? En gros, ça veut dire quoi? C'est est-ce que c'est dans un data center qui répond à des normes de sécurité très élevées? Est-ce que il y a des conformités, des certifications qui sont offertes, qui accompagnent en fait justement l'hébergement, si j'ose dire, de votre charge de travail? Ça, c'est une autre dimension. Alors là, on a beaucoup d'acteurs du monde de l'hébergement qui sont très bons là-dedans, qui ont des très bonnes certifications sur leur data center. Donc là, il n'y a vraiment pas à rougir de ce côté-là. Par contre, si vous voulez vraiment chercher le maximum de certifications, je crois que c'est difficile de battre des acteurs comme Microsoft et Amazon. Vous pouvez télécharger sur leur site web, en fait, la liste des conformités qu'ils sont allés chercher. C'est pas compliqué, ils sont conformes avec tout ce que je connais. En fait, j'ai pas réussi à trouver quelque chose sur lequel ils n'étaient pas conformes. Ils sont vraiment très très actifs. Ils dépensent énormément d'argent là-dedans pour s'assurer que votre charge de travail elle est dans un environnement sécuritaire. Puis après, il y a une troisième dimension qui est un peu plus difficile à quantifier. C'est à quel point, au niveau logiciel, votre fournisseur investit beaucoup d'argent pour s'assurer que les infrastructures qui sont sous-jacentes sont toujours à jour, sont patchées, sont sécuritaires, avec des règles du juste assez en termes d'identité, etc. Donc ça, c'est du travail qui n'est pas visible. En fait, il est visible lorsqu'il y a une vulnérabilité qui est découverte. C'est là où on se rend compte que, il aurait fallu mettre encore un peu plus d'argent, un peu plus d'efforts, visiblement. Mais c'est assez complexe à quantifier. Par contre, quand même, ce qu'on peut observer, c'est que les cloud providers, dernièrement, depuis deux ans, là, on a eu plusieurs vulnérabilités qui sont apparues, mais c'était les premières. C'est-à-dire qu'avant, les deux dernières années, des vraies vulnérabilités concernant des logiciels sous le domaine de responsabilité du cloud provider, Moi, personnellement, j'en connais pas. J'en ai pas vraiment vu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récent. C'est parce que c'est lié aussi à un investissement plus important d'entreprises privées pour la recherche de vulnérabilité, justement, précisément sur ces environnements. Il y a beaucoup plus d'efforts qui sont mis sur la recherche de vulnérabilité dans ces environnements, et c'est très bien, c'est très positif, parce que c'est comme ça qu'on va justement renforcer encore plus ces environnements. Mais donc, je pense que c'est les futures années, là, les prochaines années, qui nous diront si, s'ils doivent augmenter encore leurs investissements ou pas dans ce domaine.
C'est ça. De toute façon, je pense que Microsoft avait promis un 30 milliards pour les 5 prochaines années. C'est des montants qui sont complètement hors de ce monde quand on parle de l'argent qui est investi en sécurité par les clouds, les 3 grands clouds. C'est complètement fou. Puis il n'y a personne qui arrive là, puis même les hébergeurs n'ont pas cette capacité-là à ce stade-ci d'investir ces sommes d'argent-là pour protéger leur stack logiciel, puis d'aider leurs clients aussi, parce qu'on l'a vu avec Amazon dans certains égards. On revient sur S3 où là, ils ont commencé à certaines mesures préemptives, c'est-à-dire qu'ils vérifient que les clients ne se tirent pas dans le pied, un, en bloquant le S3 pour pas tout ça, mais en même temps, qu'ils ne stockent pas des clés API, par exemple, dans les GitHub de ce monde, qu'ils ne fassent pas plein d'éléments comme ça. Fait qu'il y a quand même, ils contribuent à l'ensemble et pas juste à leurs propres petits univers, là.
Non, effectivement, et puis il y a qu'à voir d'ailleurs les projets open source. Hein. Ces trois acteurs qu'on a cités, les trois contribuent énormément sous GitHub, contribuent énormément à l'open source et puis partagent énormément de code, de techniques, de tools de sécurité. Donc c'est vraiment appréciable. Je pense que ça bénéficie à tout le monde, effectivement.
Je vais terminer avec une dernière remarque, question. Puis je sens que celle-là va m'attirer les foudres, comme toi, tu t'étais de ton côté. Parce que pour moi, puis à la lecture de ton article, du lift and shift, c'est juste de l'hébergement qu'on va chercher. C'est pas de l'info nuagique.
Ah, ça, c'est une question. C'est une bonne question. en fait, le lift and shift, C'est pas forcément une mauvaise pratique pour basculer dans l'info nuagique, mais ça doit être vu comme une porte d'entrée d'une migration dans l'info nuagique. Ça doit surtout, la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est du lift and shift comme un modèle final de migration dans l'info nuagique. Ça c'est une erreur. Commencez par du lift and shift, ça peut très bien s'expliquer. D'ailleurs, vous avez AWS le met en avant tout à fait de façon tout à fait correcte comme façon de procéder. Il y a certains projets au début, on va être en mode lift and shift, mais l'objectif c'est de effectivement travailler sur le fond en termes de compétences auprès des équipes d'architecture et des équipes de développeurs pour progressivement les charges de travail les optimiser pour l'info nuagique. Sinon, le vrai problème, si vous voulez, d'un point de vue des cloud providers, eux, au final, si vous voulez faire du lift and shift, bah écoutez, le principal, c'est que vous alliez chez eux, hein, que ce soit en lift and shift ou en mode optimisé, ça fera de l'argent. Ouais,
ils veulent ramasser l'argent, ils sont contents.
Ça fera des bénéfices, ils vont pas être contre, je veux dire, fondamentalement. Mais vous, en tant qu'entreprise, en tant que client, c'est quoi les bénéfices que vous allez chercher en faisant ça? Parce que mine de rien, même en faisant du lift and shift, c'est quand même beaucoup d'impact, c'est quand même des changements, c'est des efforts pour vos équipes. Et puis, la consommation derrière, en mode lift and shift, ce dont je parlais tout à l'heure, l'élasticité, etc., vous n'allez pas tant en bénéficier en réalité. Donc, votre facture, vous allez transformer du CAPEX en OPEX. Potentiellement, ça peut être intéressant pour certaines entreprises. Mais en dehors de ça, il n'y a pas tant de bénéfices. A contrario, si oui, vous commencez par du lift and shift, mais que vous faites une mutation vraiment en profondeur dans vos équipes et dans vos façons de penser vos TI, dans les 2-3 années qui vont suivre, vous allez vous retrouver avec des charges de travail qui vont être beaucoup plus économiques parce que c'est clair, c'est prouvé dès l'instant où vous optimisez vos charges de travail dans un mode vraiment plus PaaS, SaaS, vous allez chercher beaucoup d'économies d'échelle. Vous allez avoir une robustesse, une résilience qui va être beaucoup plus importante parce que vous allez être capable, en cas de défaut, en cas de problème quelconque, automatiquement de basculer des charges de travail d'une région à une autre ou d'une zone de disponibilité à une autre. Bref, vous allez avoir beaucoup d'impacts positifs qui sont des impacts directement lié à votre business, à vos affaires, soit en termes de coûts, soit en termes de performance de livraison. Vous allez être capable de livrer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités sur le marché. Vous allez être capable d'avoir un plus haut taux de disponibilité de vos TI, donc de vos services d'affaires. Donc, tu vois, c'est vraiment... Là, on va chercher les vrais bénéfices de fond. Alors que le lift and shift simple, les bénéfices vont être plus réduits. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont beaucoup plus réduits.
Pour ce que j'ai pu mesurer, c'est généralement négatif, c'est-à-dire qu'on paye souvent plus cher que si on n'avait rien fait. Puis moi, de mon approche, puis encore là, on n'est même pas obligé d'aller en infologique pour le faire la première étape, c'est de faire de la dockerisation, dans le fond, de transformer dans des images comme ça. Et là, à mon avis, la première étape qui est indépendante de l'infologique et qui amène ensuite la facilité, parce que là, quand on fait du lift and shift avec des images Docker ou du Kubernetes, là, on embarque dans le vrai univers infonuagique. Et là, on déplace dans des endroits où c'est utile avec plein de choses qui permettent d'améliorer justement la chose, mais ça demande un changement important dans la façon de faire des gens sur site avant. Puis c'est là l'élément le plus difficile.
Ah, c'est un super bon point, c'est que souvent, il y a deux notions qu'on assimile souvent à l'info nuagique, parce qu'effectivement, c'est deux notions qui sont vraiment portées et défendues par l'info nuagique, mais en réalité, elles sont tout à fait réalistes dans un environnement sur site. C'est le modèle DevOps. Le modèle DevOps, je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans l'info nuagique pour avoir un modèle DevOps dans nos équipes. On peut très bien mettre en place sur site un vrai modèle DevOps, faire travailler nos gens d'opération avec nos développeurs dans une notion d'équipe produit, donc en mettant en avant beaucoup plus des produits. Et puis, c'est la micro-segmentation avec notamment les plateformes de type Kubernetes ou OpenShift. Et puis ça, d'ailleurs, on commence à en voir de plus en plus au Québec, même des plateformes OpenShift on-premise. Et là, on a effectivement des gros avantages, des gros intérêts qui vont être de faciliter avec la containerisation. On va faciliter la mise en place de pipelines CI/CD et puis l'augmentation de la livraison de nouvelles fonctionnalités parce que les scopes vont être plus petits, les unités fonctionnelles vont être plus petites, donc plus facile à mettre à jour et puis à livrer avec moins de crainte de tout casser quand on fait une mise en prod. Donc ça pourrait être la troisième notion d'ailleurs, le pipeline CI/CD. Évidemment, on peut en avoir un on-premise, un bon Jenkins comme on l'aime. Et puis quand on a déjà ces trois valeurs, le DevOps, le pipeline CI/CD et la containerisation. Voilà, on est déjà pas mal. Là, on est bon là pour migrer dans l'info nuagique. Là, on n'est plus très loin là d'une migration facilitée, en tout cas de l'info nuagique.
Ça devient effectivement plus intéressant comme ça. On va conclure sur ça. C'est super intéressant. J'espère que autant ton article que ce podcast-ci va aider les gens à peut-être recadrer au bon endroit les différentes notions pour qu'ils puissent justement retirer de la valeur ces éléments-là. Puis je te laisse le mot de la fin.
Dame, je n'étais pas prêt pour le mot de la fin. non, mais je pense que...
Désolé.
Non, je pense que le mot de la fin pour moi, c'est vraiment... L'important, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans ce que j'appelle des guerres de chapelle, mais vraiment de développer une curiosité et puis d'aller voir, d'aller essayer de comprendre pourquoi il y a deux gars sur un podcast qui parlent de valeurs dans l'info nuagique. Bah, si on les croit pas, écoutez, essayez d'aller voir, ouvrez-vous, posez des questions. Il y a toujours les gens passionnés de cloud sont des gens en général assez volubiles qui aiment beaucoup en parler. Donc, demandez à avoir des démonstrations, demandez à avoir des preuves de concept. Il y a des meet-ups qui existent, il y a énormément de façons de s'informer autour de l'info nuagique. En dehors des discours commerciaux, j'entends. Informez-vous auprès des gens qui sont réellement déjà dans un modèle infonuagique et ces gens-là vont être capables de vous expliquer, de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Puis là, à ce moment-là, si on est capable d'avoir cette curiosité et cette ouverture d'esprit, en réalité, ça vient assez vite. Après, les gens, ils percutent rapidement parce que là, comme concrètement, on le voit là, de nos yeux, OK, c'est comme une évidence. Que le mode service apporte plus de valeur pour les affaires que le mode serveur. Pensons en termes de service, arrêtons de penser en termes de serveur.
Wow, c'est un beau mot de la fin. Et merci beaucoup.
Merci à vous.